7h30 minutes. Monique est avec nous parce qu'on va prendre un peu de temps ce matin pour vous présenter Donald Duguay. C'est l'homme qui accuse Éric Salvaille de l'avoir agressé. Et chose un peu hors de l'ordinaire, il a fait une démarche devant les tribunaux pour qu'on puisse formellement dire qui il est, parce qu'une victime d'agression sexuelle, victime présumée, a toujours l'identité protégée. Et on doit aller devant le juge pour dire, écoutez, voici pourquoi je veux que mon nom soit maintenant connu. C'est ce qu'il a fait. Il a obtenu, Monique, cette permission légale. Et il veut nous dire donc qui il est et pourquoi il a porté plainte finalement contre Éric Salvaille.
Tout à fait, on le connaissait sous DD hein, dans l'acte d'accusation officiel d'Éric Salvaille depuis le début de l'année. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 93, il m'a raconté qu'il travaillait comme messager à Radio-Canada avec Éric Salvaille. Ils étaient à l'époque des collègues. Donc vous aurez compris, là, sur le même pied d'égalité, il n'est pas question d'abus de pouvoir du tout dans ce contexte-ci. Il allègue avoir été agressé sexuellement dans une salle de bain de la tour de Radio-Canada après un crescendo d'harcèlement qui aurait duré plusieurs mois. Il va nous expliquer d'abord pourquoi, justement, il décide de sortir publiquement ce matin.
Pourquoi vous décidez aujourd'hui de parler publiquement pour la première fois?
C'est important, dans mon cheminement personnel, de sortir de l'anonymat, de lever la tête pour faire changer la honte de côté. C'est pas à moi à baisser de la tête, c'est la seule journée où je vais en parler.
Qu'est-ce que la Couronne pense de cette démarche-là?
Bien expliquer mes motivations, que je connaissais bien les limites, que j'avais un grand respect pour le processus judiciaire et pour la Cour. Tout ce qui concernait les faits en tant que tels qui vont être discutés à la Cour, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Elle s'est bien rendue compte que ce n'était pas une forme de revanche contre le présumé agresseur ou quoi que ce soit. Ça n'avait rien à voir avec lui. Sinon, ça les a rassurés des raisons de ma sortie.
Quelles sont-elles exactement vos motivations?
Il est temps que les victimes lèvent la tête, ne vivent plus dans la honte. C'est quelque chose lorsqu'on est agressé sexuellement. Moi, je compare ça un peu à un avion sur lequel on coupe les moteurs. Sur le coup, ça paraît pas tellement, l'avion va continuer de planer. Et doucement, l'avion perd de son altitude. On n'a plus contrôle de nos gouvernails et c'est très pernicieux. Ça se fait sur un long terme. Il y a le choc initial, mais ensuite, les conséquences qui vont aller vont être émotionnelles, qui vont teinter notre façon de penser, créer des zones erronées dans notre cerveau. L'estime de soi ne se perd pas automatiquement, mais lentement et sûrement. Et c'est comme si on se désagrégeait. Moi, ça a été 25 ans, jusqu'à la révélation de la presse, au fond, où tout ça a réveillé la blessure et je suis tombé à ce moment-là en choc post-traumatique.
C'était le 17 octobre 2017. On se souvient qu'11 personnes accusaient à ce moment-là le producteur-animateur d'inconduite sexuelle. Et on a porté à son attention cet article-là. Et ça a été là le choc qui l'a mené jusque dans un lit d'hôpital en psychiatrie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
C'est une amie qui me contacte pour me montrer cette information-là. Je suis content qu'il se soit fait pincer. J'ai un peu lu ce qui s'était dit sur le truc toute la journée et c'est ce qui a déclenché ma mémoire traumatique. Les souvenirs, les sons, beaucoup de choses reviennent en mémoire. C'est très déstabilisant.
Concrètement, ça s'est manifesté comment?
On revit tout comme si c'était hier. Les crises d'anxiété, attaques de panique, les tremblements sans cesse. J'ai passé 5 jours sans dormir, vomissements. Le cerveau, pour survivre à cette faculté-là, de mettre dans un tiroir, de bien enfermer. Et je vous dirais qu'à ce moment-là, le tiroir s'est ouvert et il n'y avait plus moyen de remettre en place. 48 heures après avoir fait la plainte à la police, j'étais en choc post-traumatique trop élevé. Le stress était vraiment trop élevé pour travailler. Donc, d'essayer d'un retour progressif au travail, ça n'a pas fonctionné. Je me suis retrouvé sur l'aide sociale, les banques alimentaires. J'arrivais plus à m'occuper de moi-même, de mon quotidien.
Il a décidé de porter plainte, en fait, à la police, à sa sortie, justement, de l'hôpital où il a séjourné quand même pendant plusieurs jours.
Parce que la police a décidé d'ouvrir une ligne. J'avais déjà réfléchi pendant 2-3 jours avec mon médecin, avec des amis, à savoir ce que je faisais. Et je voyais bien que ce qui sortait dans les médias était quand même assez récent dans la dernière décennie. Je me disais, s'il y a d'autres victimes comme moi qui ne sortent pas, si on se dit tous, ça ne me regarde pas, je veux pas aller rejouer là-dedans, on n'aura jamais le portrait global. Donc, ça devenait une responsabilité. Je n'ai jamais su si j'avais été sa première victime, mais je me disais qu'il était presque impossible qu'en 93, au début, les premières fois où il y a eu les premières altercations, parce que ça s'est fait en crescendo, nous travaillions tous les deux à la salle du courrier de Radio-Canada. Donc, c'était plus profond qu'un abus de pouvoir ou que l'argent monte à la tête ou sa notoriété. Il y avait autre chose. À l'époque, je venais d'avoir 20 ans. L'homosexualité n'était pas aussi bien acceptée. J'ai travaillé à Radio-Canada. J'avais un contrat temporaire. C'est arrivé un vendredi. Le lundi suivant, j'ai voulu aller porter plainte à la police. Et les collègues, les amis, évidemment, on pèse le pour et le contre. Ils disent, bon, est-ce qu'on va te croire? Est-ce que tu vas garder ton travail? Il y a la guerre du SIDA. Comment tu vas être accueilli avec la police? Tu pourras perdre ton emploi. J'étais trop jeune pour arriver à prendre des décisions si grandes et j'ai rebroussé chemin. aujourd'hui, je me sens en partie coupable parce que je me rends compte que son comportement a continué et que si peut-être je l'avais arrêté à ce moment-là, j'avais été à la police, il y aurait peut-être beaucoup de victimes qui auraient eu une meilleure vie. Le système ne peut pas agir si les victimes ne sonnent pas l'alarme. Mais j'ai failli à mon devoir de citoyen à ce moment-là. C'était important pour moi de ne pas faillir une deuxième fois. Et c'est là où le processus judiciaire s'est mis en place.
Mais là, c'est important de souligner un point, là, c'est-à-dire que le fait qu'à l'époque, il en ait parlé, là, on l'entend, à des collègues ou à des amis, et de porter plainte après toutes ces années, ça vient comme corroborer, en tout cas, qu'il a déjà parlé de ça. C'est pas comme quelqu'un qui dit « j'ai gardé ça pour moi, j'en ai pas parlé », ce qui a probablement aidé
les policiers, le DPCP,
oui, à aller plus loin dans son dossier.
À faire leur démarche, à aller corroborer justement qu'est-ce qui avait été dit à l'époque, dans quel contexte, les dates, les moments, et ce qu'il avait raconté, bien entendu. C'est comme ça, donc, qu'en 2017, il se retrouve le pied dans l'appareil judiciaire, mais vous aurez compris, sans jamais savoir qu'il serait au final le seul à se rendre au bout du processus.
On doit refaire le fil des événements exactement au complet. C'est jamais évident parce qu'on passe 3 ou 4 heures à se faire cuisiner. Je trouvais ça normal que le processus soit très rigoureux, très confrontant, évidemment. Ça fait remonter beaucoup d'émotions lorsqu'on a à mimer son agression, ce genre de truc-là. Mais je comprends pourquoi on le fait. Est-ce que le corps réagit d'une manière logique face à ce qui a été dit?
Comment vous avez réagi quand vous avez appris que vous étiez la seule plainte retenue?
Ouf! Une grande lourdeur, une très grande responsabilité surtout pour toutes les victimes dont la plainte n'avait pas été retenue. Je savais que si j'allais pas au front moi-même, il s'en sortirait, blanc comme neige, comme si rien n'était. Il aurait été une victime collatérale, disons, du MeToo, sans fondement. C'est lourd à porter, c'est un stress, c'est immense. Ma première priorité, c'est qu'il ne fasse plus jamais de victimes, ni ici, ni ailleurs au monde. Je vais aller jusqu'au bout dans le processus. Pour moi, il n'y a pas question de reculer. Je me sentais le devoir de faire ce combat-là à visière levée. Il y a des risques à ma sécurité, il va y avoir des appuis, des contre-appuis, mais je crois que ça va aussi faire partie de ma reconstruction. Leur but est de m'épuiser, probablement, mais je suis prêt au combat.
Parlant de combat, vous savez, quand on est victime d'actes criminels, on peut faire une demande à l'IVAC qui indemnise. Même si c'est pas dans l'appareil judiciaire, on peut quand même faire ce type de demande-là. Et dans ce cas-ci, on a estimé qu'il s'agissait davantage d'une lésion professionnelle, comme c'était probablement arrivé sur les lieux du travail, les allégations. Donc, on a renvoyé ça dans la cour de la CNESST. Donc, ça fait des mois et des mois qu'il y a un combat également en ce sens. Ça s'ajoute à tout le reste. Et en terminant, il y a 2 mois, peu de temps après avoir été, je vous dirais, au plus bas, il a voulu s'accrocher à quelque chose, et ce quelque chose-là, ça a été de créer une page Facebook pour les victimes, une forme d'agora de sensibilisation, si vous voulez.
Quelle est votre situation actuelle?
J'étais vraiment à risque. Ma dernière tentative de suicide remonte à janvier dernier. J'avais besoin de quelque chose pour me sortir de cet état-là de survivant. Après avoir vu les 4 élus passer à Tout le monde en parle, dans leur discours, je me rendais compte qu'on oubliait beaucoup de victimes. On oubliait les hommes, les gays, les lesbiennes, les personnes âgées. Et ça m'a profondément choqué. Et c'est là où j'ai créé les 7 millions de mousquetaires. Et ça a été ma planche de salut. C'est encore ma planche de salut. Le 7 millions vient du nombre de personnes actives au Québec qui pourraient porter l'épée du mousquetaire et qui ont un devoir de s'unir, protéger le 1,5 million qui, lui, ne peut pas se protéger. Collectivement, c'est terminé. Et ce ne sera plus toléré de personne.
L'affaire Éric Salvay, ouais, je vous rappelle, revient en cours le 27 mars prochain.
Et on rappelle son nom, c'est Donald Duguay. C'est le seul dossier qui a été retenu par le DPCP dans cette histoire-là. Puis juste en parallèle, parce que là, les gens m'écrivent en me disant, bon, ben, c'est toujours les mêmes questions, comment ça se fait que ça prend tant de temps avant de dénoncer? Je vais vous irez voir le film de François Ozon qui porte sur un scandale pédophile au cœur de l'Église. Et ça s'appelle « Grâce à Dieu ». On va parler avec François Ozon cette semaine. Et ça raconte toute l'histoire d'enfants abusés quand ils étaient scouts, par exemple, à Lyon. Comment un prêtre a pu les abuser et comment pendant des années ils ont gardé le silence. Et comment le cardinal Barbarin, qui a été reconnu coupable il y a quelques jours à peine, a camouflé l'affaire, a tenté d'étouffer le scandale et a protégé davantage l'institution que les victimes. J'ai vu le film, puis quand vous voyez le film, vous comprenez l'impact dévastateur sur des gens qui, pendant des années, peuvent vivre plus ou moins de façon fonctionnelle. Et quand arrive un événement, ben ça vient comme les casser. Je sais que quand on l'a pas vécu, ça peut paraître étonnant, mais c'est le cas de beaucoup de victimes. Puis l'autre truc, Monique, et là, je ne veux pas en faire un débat de société, c'est de dire, ouais, mais un gars, là, puis on ne peut pas aller sur les faits, là, on verra au procès, mais quelqu'un qui te veut te forcer, tu es physiquement capable de te défendre puis de répondre à ça. Pour beaucoup d'auditeurs, là, il y a ça, cette réaction. Mais on verra au procès. Merci beaucoup. Il est 7h41.